Les sciences sont une source inépuisable d'étonnement, de fascination, de découverte ou d'interrogation. Embarquez dès maintenant pour un nouveau voyage au cœur des sciences. Du Big Bang à nos jours, on peut dire qu'il s'en est passé du temps. 13,7 milliards d'années pour être exact. En tout cas, c'est l'âge que les scientifiques donnent à l'univers. C'est pourquoi on vous propose un défi un petit peu fou aujourd'hui, celui de résumer ces 13,7 milliards d'années d'histoire de l'univers au fil des deux prochaines chroniques. Attachez vos ceintures, c'est parti pour un bond dans le temps qui va nous emmener loin, vraiment très très loin. Et le capitaine de bord pour l'occasion sera Jean-Philippe Godard, médiateur scientifique à Altech. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Camille.
Alors Jean-Philippe, pour cette première chronique, la première partie de ce voyage, nous allons explorer avec vous les grands événements qui ont ponctué l'histoire de l'univers depuis ses débuts, ou en tout cas l'événement dont on peut le plus se rapprocher, jusqu'à la naissance de la planète Terre. Dans le prochain épisode, qui sera diffusé le mardi 25 février, vous nous conterez la suite de l'histoire depuis la formation de la Terre jusqu'à nos jours, voire même un petit voyage dans le futur. Alors 13,7 milliards d'années, ce n'est pas forcément facile à se représenter. Pour que ce soit un peu plus parlant, nous allons nous inspirer du calendrier cosmique de l'astronome Carl Sagan et vous raconter ces différents événements comme si les 13,7 milliards d'années correspondaient à une année entière. Le départ est donné par le Big Bang, le 1er janvier à minuit, et notre présent est représenté par le 31 décembre à minuit toujours. Jean-Philippe, nous sommes donc le 1er janvier, il est minuit, et l'histoire de l'univers démarre avec grand fracas, ou en tout cas c'est ce que l'on a cru pendant longtemps.
Oui, en effet Camille, dans une projection de l'histoire de l'univers sur une année, on pourrait dire que l'histoire démarre à peu près vers minuit le 1er janvier avec ce qu'on appelle le fameux Big Bang.
Ouais, alors la croyance populaire voudrait que le Big Bang soit à l'origine de l'univers. Est-ce que c'est vraiment le cas ?
Alors, depuis le début de cette théorie, en fait, il y a eu un contresens entre la communauté scientifique et ce qu'on a reçu le grand public sur ce qu'on appelle le Big Bang. Pour les scientifiques, le Big Bang, ça représente pas l'origine de l'univers, mais bien une suite d'événements qui ont eu lieu pendant la formation de cet univers. Le Big Bang, il est donc certainement très très proche de l'origine de l'univers, mais on ne peut pas dire que ce soit l'origine pour autant.
Mais alors, est-ce qu'on sait du coup ce qui s'est passé avant le Big Bang ?
Eh bien non, malheureusement, au-delà de ce qu'on appelle le mur de Planck, qui se trouve à 10 puissance moins 43 secondes, juste après le commencement du Big Bang, on est dans ce qu'on appelle l'ère de Planck. La physique actuelle, telle qu'on la connaît, elle perd son sens. On ne peut pas décrire vraiment ce qui se passe, ni dans quel état est l'univers à cette période. Et plusieurs théories tentent de définir dans quel état va se trouver cet univers durant cette période-là. Mais toutes sont incertaines.
Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé avant le Big Bang. Est-ce que l'on sait aujourd'hui exactement ce qu'il s'est passé au moment du Big Bang ?
Alors, là aussi, c'est encore difficile à déterminer précisément, mais nos connaissances théoriques progressent au fil des améliorations, soit des instruments d'observation tels que les télescopes, mais aussi grâce aux accélérateurs de particules. Ce que l'on suppose, et là où on a le plus de preuves, c'est grâce à la théorie du Big Bang, c'est qu'à ses débuts, l'univers a connu une période extrêmement dense et chaude. Pour vous donner un ordre d'idée, au niveau de la température, il faisait 10 exposant 32 degrés. Ça ne parle pas beaucoup, c'est environ 100 000 milliards de milliards de milliards de degrés.
Autant dire que c'est très très chaud.
Très très chaud, les conditions étaient toutes les mêmes en tout lieu de l'univers. Les éléments de matière se sont ensuite très rapidement éloignés les uns des autres. Donc l'univers connaît une première phase de ce qu'on va appeler l'inflation, devenir gros à peu près comme un pamplemousse, et puis on va rentrer véritablement dans ce qu'on appelle le Big Bang, avec une phase d'expansion.
Alors, une expansion, pour le grand public, on associe souvent le Big Bang à une grande explosion, hein, d'où le nom Big Bang. Pourtant, la vérité, elle est un petit peu plus complexe.
Alors, non, en effet, le Big Bang, ça ne va pas correspondre à une explosion, puisqu'en fait, c'est la totalité de l'espace qui se dit, l'espace se crée en même temps que le Big Bang. Mais il n'est pas contenu dans un autre espace plus grand. C'est la dilatation, puis l'expansion de l'univers sur lui-même. Donc il faut savoir que le terme Big Bang en tant que tel qui vient en fait d'une blague d'un astrophysicien qui s'appelait c'était Sir Arthur Fred Hoyle dans les années 50 à une émission radio à la BBC pour se moquer un petit peu de cette théorie auquel il ne croyait pas, lui a donné ce nom-là, Big Bang, et en fait ben c'est ce nom-là que les gens ont retenu.
Mais ce n'est pas une explosion, du coup.
Alors, ce n'est pas vraiment une explosion, non.
Alors, ce qu'on comprend, par contre, à travers cette théorie du Big Bang, c'est que, du coup, il y a eu tout un tas d'étapes différentes, de créations différentes, vous allez nous l'expliquer, qui s'enchaînent dans un temps extrêmement réduit, même à l'échelle humaine.
Oui, alors ça se compte à l'échelle humaine, ça se compte en fractions de secondes. Hein. Par exemple, c'est dans ces premiers instants de l'univers que la force unique qui unissait toute la matière va se diviser en quatre grandes forces qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc les quatre grandes forces, je les rappelle, hein, c'est la gravité, ce qui fait tomber les objets par exemple, la force nucléaire faible, la force nucléaire forte et enfin l'électromagnétisme, la force électromagnétique.
Alors, force nucléaire faible, force nucléaire forte, est-ce que vous pouvez nous préciser ?
Alors, la force nucléaire forte, on va dire que c'est ce qui va nous donner la radioactivité.
D'accord.
Quand ce qui se passe au sein d'une étoile ou d'un réacteur de fusion nucléaire. C'est cette force qui relie les atomes entre eux. La force nucléaire faible, ça va être pour ce qui va lier les quarks. Voilà. Entre eux, donc ces éléments constitutifs qui permettent de relier les protons et le neutron entre eux. C'est un peu compliqué, il faudrait faire une séance.
Une chronique spéciale là-dessus.
Spéciale là-dessus, oui.
Donc on a déjà les forces qui sont créées. Qu'est-ce qui est créé d'autre à ce moment-là ?
Eh bien, toute la matière de l'univers va être créée durant cette période. D'abord, apparaissent la formation des protons puis des neutrons qui vont constituer les noyaux des premiers atomes et donc de toute la matière ordinaire. Avec également, on le pense, une formation des antagonistes, donc des antiprotons, des antineutrons, qui sont ce qu'on avait appelé l'antimatière. Donc 3 minutes après le commencement du Big Bang, on pourrait dire que tous les premiers atomes sont formés, et pour vous donner un ordre d'idée, on pourrait se dire qu'il faut imaginer que toute l'eau qu'on trouve sur Terre, toute l'eau qui est dans l'univers à l'heure actuelle, a été formée pendant ces 3 minutes.
Alors, pour les personnes qui sont attirées par ces termes antimatière, etc., alors c'est sûr qu'on n'a pas le temps de tout développer. L'idée, c'est plus de vous donner une idée globale de ce qui s'est passé dans ces premiers instants d'histoire de l'univers. Jean-Philippe, vous le disiez, toutes ces notions, elles font partie de la théorie du Big Bang, mais est-ce qu'on a une preuve que ces événements ont bien eu lieu ?
Alors, l'une des meilleures preuves qu'on ait à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. En fait, on a fait une photographie de l'univers. En regardant le plus loin possible grâce à nos outils, on obtient cette photographie de l'univers, on va dire 380 000 ans à peu près, après le commencement du Big Bang. Et cette image, elle nous montre une fluctuation de la température qui prouve que l'univers a connu une période extrêmement chaude et qui s'est refroidie progressivement. Donc elle montre également qu'il y a une répartition assez homogène de l'univers, ce qui correspond bien aux attentes de la théorie du Big Bang et de son expansion.
Donc ça, c'est le fameux fond diffus cosmologique. Alors, dans notre calendrier cosmique, hein, je le rappelle, on détaille l'histoire de l'univers depuis le Big Bang, on va dire, jusqu'à nos jours à l'échelle d'une année. Là, on vient d'assister, on était le 1er janvier à la naissance de l'univers, la formation de toute la matière, les forces, etc. Comment cette matière, elle va évoluer par la suite ?
Alors, on pourrait se dire que dans la nuit du 2 au 3 janvier, donc 180 millions d'années après le début du Big Bang, les premières étoiles apparaissent. La matière qui est contenue dans le cosmos va s'agréger par endroits sous l'effet de son propre poids, de la force gravitationnelle, pour donner naissance aux premières étoiles. On parle alors de nébuleuses qui sont de gros nuages de gaz et de poussière. Alors, ces éléments qui constituent ces nébuleuses vont se comprimer, ce qui va entraîner une augmentation de la température. Hein, imaginez, quand on pompe de l'air dans une pompe à vélo, on sent que ça chauffe. Hein. Et bien là, il se passe à peu près la même chose. Et quand la température, quand la pression est suffisamment importante, et ben vont démarrer des réactions thermonucléaires qui vont allumer, on va dire, le cœur des premières étoiles. Donc, les atomes d'hydrogène, hein, physiquement, vont fusionner pour donner naissance à de l'hélium, en libérant une grande quantité d'énergie, et c'est comme ça qu'apparaît une étoile.
les premières étoiles, toutes ces étoiles-là, est-ce qu'elles naissent identiques, est-ce qu'elles deviennent identiques ensuite dans le ciel, globalement?
Alors, c'est vrai que lorsqu'on observe le ciel, qu'on est un peu novice, qu'on observe tous ces points lumineux, on est tenté de penser que toutes les étoiles se ressemblent. Mais en fait, il existe une grande variété d'étoiles différentes. Suivant la quantité de matière qui les compose au départ, une étoile n'aura pas la même taille ni la même durée de vie. Une étoile moyenne, comme notre Soleil, vit environ 10 milliards d'années et finit en nébuleuse planétaire en ayant eu tout un tas d'étapes successives.
Oui, et puis même toutes les étoiles n'ont pas le même âge.
Alors, toutes les étoiles n'ont pas le même âge. Il y a des étoiles beaucoup plus massives qui ne vivent que 20 à 60 millions d'années, puis explosent en supernova ou hypernova. La matière se disperse et sert à la constitution de nouvelles étoiles et de planètes.
Alors, la prochaine étape, c'est que ces étoiles s'organisent en galaxies. Alors, ça se passe un petit peu en même temps, suivant l'âge des étoiles. Ça va se produire rapidement après la formation de ces premières étoiles?
Alors, pas véritablement. Sur le calendrier cosmique, il faut attendre le 10 janvier pour voir apparaître les premières galaxies. Là encore, c'est la matière engendrée par le Big Bang qui va s'amalgamer comme des grumeaux. On fait une espèce de pâte à crêpes, il y a des grumeaux dedans et sous l'effet de la gravitation, ces galaxies, ces proto-galaxies vont se former à partir d'immenses nuages de gaz, de poussière, ainsi que de milliards d'étoiles. Et au fur et à mesure de leur naissance, ces proto-galaxies elles vont se répartir en amas de centaines de galaxies et au même contenu dans des super amas. Et on pourrait dire que ce sont les objets les plus vastes, les plus gros de l'univers.
Notre galaxie à nous, la Voie lactée, elle apparaît où dans cette histoire?
Alors, il va falloir attendre un petit moment avant de la voir apparaître sous sa forme actuelle. Même si certains de ses constituants existent depuis un bon moment, il faut attendre environ le 12 mai, soit à peu près 3 milliards d'années après le début du Big Bang, pour que notre galaxie, la Voie lactée, prenne sa forme de spirale avec bulbe central tel qu'on la connaît aujourd'hui. Donc notre galaxie s'est probablement formée à peu près comme les autres galaxies suite à l'effondrement d'un immense nuage qui a formé une proto-galaxie, puis une galaxie avec ses premières étoiles. Et la gravitation va ensuite donner petit à petit la forme d'un disque aplati tournant sur lui-même.
Alors, pendant longtemps, en fait, les astronomes pensaient que la Voie lactée était la seule galaxie et que tout ce que l'on voyait, du coup, dans les télescopes faisait partie de cette même galaxie. Aujourd'hui, on sait qu'il existe des milliards d'autres galaxies, voire même plus. Est-ce que, là encore, comme les étoiles, elles se ressemblent toutes, à notre Voie lactée?
Alors, on n'arrête pas de découvrir de nouvelles galaxies. A priori, il y en a beaucoup qui ressemblent à la Voie lactée. Avec des bras spiralés, mais on sait aussi qu'il y a certaines galaxies qui ont des formes complètement différentes, comme par exemple les galaxies lenticulaires qui ont des formes d'un disque énorme avec un énorme noyau au milieu. D'autres sont beaucoup plus grandes, comme la galaxie d'Andromède, d'autres beaucoup plus petites. Donc, nous, la Voie lactée, elle contient environ 200 à 400 milliards d'étoiles, avec au minimum 100 milliards de planètes. Et certaines de ces étoiles sont presque aussi âgées que l'univers lui-même. La plus vieille étoile de la Voie lactée a 13,2 milliards d'années, par exemple.
Bulle de science. Jean-Philippe, dans notre voyage dans le temps, où je le rappelle, nous racontons 13,7 milliards d'années d'histoire de l'univers à l'échelle d'une année, nous venons d'assister au début tumultueux de l'univers avec le Big Bang, la naissance des premiers atomes, puis des premières étoiles et galaxies, dont la nôtre, la Voie lactée. La prochaine étape de l'histoire est bien évidemment la naissance de notre système solaire.
Oui, alors ça, c'est d'un point de vue anthropocentrique. En effet, c'est la prochaine étape. Je fais un bref rappel. Donc, si vous vous souvenez de notre calendrier cosmique, le Big Bang apparaît le 1er janvier. Les premières étoiles naissent dans la nuit du 2 au 3 janvier. Et les premières galaxies se forment aux alentours du 10 janvier. Tandis que la nôtre, la Voie lactée, prend sa forme actuelle vers la mi-mai. Donc, sur notre calendrier cosmique, il faudra attendre le 2 septembre pour assister à la naissance d'une étoile moyenne, notre Soleil, et de son système de planètes, le système solaire qui l'accompagne. Notre système solaire ne fait donc que le tiers de l'âge de l'univers.
Dans ce système solaire, on trouve donc une étoile au centre, le Soleil, et un certain nombre de planètes qui gravitent autour. Comment ces planètes se sont formées?
Alors, Bien évidemment, ce ne sont pas les premières planètes à se former dans l'univers, et il y a des planètes beaucoup plus anciennes, mais on pense que la formation des planètes suit à peu près, semble-t-il, toujours le même mécanisme. On le disait tout à l'heure, une étoile se forme à partir d'un énorme nuage de gaz appelé nébuleuse. Ce nuage va tourner sur lui-même sous l'effet de la gravité. Cela va en quelque sorte trier un petit peu les éléments qu'il constitue. Hein. Dans ce nuage, il y a de l'hydrogène, il y a des poussières, il y a plein de choses différentes. Les éléments les plus légers se retrouvent au centre, tandis que les éléments les plus lourds vont se retrouver un peu expulsés vers l'extérieur, ce qu'on appelle la force centrifuge. À partir de là, les éléments les plus légers comme l'hydrogène se retrouvent principalement au centre de la nébuleuse, vont se concentrer et donner naissance au Soleil. Et notre planète, elle, va se former dans une zone où se trouve principalement le silicium. Donc cette matière va se rassembler par endroits sous l'effet de sa propre masse, sa propre gravité, et ainsi former des protoplanètes. Celles-ci vont petit à petit se stabiliser à une certaine distance de l'étoile et former à peu des planètes en agrégeant de plus en plus de matière.
Donc dans ce système solaire, on a deux catégories de planètes. D'un côté, les planètes rocheuses dont fait partie la Terre, au même titre que Mercure, Vénus et Mars. Et puis on a les planètes gazeuses avec Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Jean-Philippe, en quoi notre planète Terre est-elle si particulière ?
Alors la planète Terre, elle est particulière parce qu'elle est située à 150 millions de kilomètres de son étoile, notre Soleil, dans une zone qu'on va dire habitable. Elle n'est ni trop près, ni trop loin de son étoile, ce qui est un facteur déterminant pour permettre l'apparition de la vie. On connaît aujourd'hui de nombreux autres systèmes planétaires qui gravitent autour d'autres étoiles. Ce sont les fameuses exoplanètes. À noter néanmoins que les systèmes planétaires que l'on connaît actuellement sont bien différents d'une autre. Et on ne connaît à l'heure actuelle aucun système extrasolaire véritablement similaire au nôtre.
Donc vous le disiez, une des plus grandes particularités de la Terre et qui pour l'instant est une exception à l'échelle de l'univers, en tout cas c'est ce que pour l'instant on sait à l'échelle de la connaissance scientifique, c'est la capacité d'abriter la vie. Ça, on vous le racontera dans la deuxième partie de l'histoire de l'univers. On vous rappelle, ce sera le mardi 25 février dans notre prochaine chronique Bulle de Science. Merci Jean-Philippe.
Merci Camille.
Et puis on vous retrouve donc dans un mois pour la suite du voyage. À bientôt sur Radio B. Retrouvez toutes les chroniques d'Altech sur le site de Radio B, radio-b.fr. À bientôt.